offert par le père Marie-Dominique Philippe le 22 février 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
Voici quelques questions. La vie sensible n'est-elle pas plus en acte quand je vois une belle lumière, quand j'entends, quand je vois une belle lumière, que j'entends une belle voix, plus que dans le vécu imaginaire qui gambade. C'est très vrai, je suis tout à fait d'accord. La vie sensible, et en analysant, et quand on analyse, on voit la vie sensible à son point de départ, et on voit les sensibles propres. C'est par les sensibles communs que la vie sensible est, j'allais dire, mangée par l'imaginaire. On reste très peu dans les sensibles propres, sauf l'artiste. C'est la différence. C'est pour ça que c'est assez spécial. La vie sensible est mise en pleine lumière par l'artiste. Dans la vie sensible courante, très peu de monde vivent des sensibles propres. Ils vivent des sensibles imaginaires qui sont, eux, saisis par l'imaginaire. Donc, ils vivent des sensibles communs, je veux dire, qui, eux, sont pris par l'imaginaire. Vous voyez, quand je vois, par exemple, des personnes qui, pour le travail, le matin, se précipitent à leur travail et font tous les jours le même chemin, ils sont complètement insensibles à ce qu'il y a de particulier dans ce trajet. Ils regardent de point de vue pratique, on met tant de temps pour le faire, tant de temps pour le faire, on fait ça à toute vitesse. Et au fond, à la place de regarder, de s'éveiller à la vie sensible, on vit dans l'imaginaire. La petite chanson, le regard, c'est extrêmement curieux quand on interroge les gens sur leur chemin du matin. Et si on le fait avec eux, ah, on regarde la première fois qu'on le fait et on voit des tas de choses qu'ils n'ont jamais vues. Alors, c'est le point de vue différent de l'analyse philosophique de la vie sensible, et le regard que je prends maintenant pour voir ce que l'être en acte est dans ma vie sensible. Vous voyez, il y a deux points de vue différents. Je ne reprends pas, je la suppose connue, la philosophie du vivant. Et dans la philosophie du vent, vous analysez la vie sensible, la vie imaginative, dans un regard, je ne dis pas de sagesse, parce que ce n'est pas tout à fait le regard de sagesse, sagesse, ce serait à partir de Dieu, mais à partir de l'être en acte. Alors, c'est très vrai, je dois, et hier je n'ai pas insisté suffisamment, l'être en acte, au point de vue vie sensible, et donner grâce au sensible propre. Ma vision, vue par la lumière, le toucher. Et puis, ma vie sensible, qui, je ne dis pas, elle se dégrade ou elle est moins actué, je glisse très vite au sensible commun. Et à ce moment-là, la vie sensible s'achève dans l'imaginaire, qui est encore du sensible. Vous voyez, il y a deux moments. Il y a la vie sensible à son point de départ, dans son caractère propre, qui est actuée par les sensibles propres. Elle est vraiment actuée. La vision, et ce qu'on dit ici, la vision par une belle lumière. Regardez le lever de soleil splendide, vous êtes saisi par un sensible propre. Il n'y a rien d'imaginaire. Le sensible propre est suffisamment propre, c'est le cas de le dire. Il a été lavé la nuit et il est suffisamment propre pour vous saisir. Et vous êtes en acte. Alors il y a un acte de vie sensible qui me fait saisir ce qu'il y a de caractéristique dans les sensibles propres. Là, c'est Energeia, c'est la vision, dans sa pureté, c'est le toucher, dans sa pureté, c'est l'ouïe, dans sa pureté. Et en même temps, l'acte, c'est le sensible lui-même qui actue. C'est le sensible propre qui actue. Mais il actue ma vision, il actue mes sens. Vous voyez ? Alors, il est à la fois, en tant que sensible propre existant, il est Energeia et Entelekeia, c'est ma vision, c'est mon toucher, c'est mon ouïe. Et lorsqu'il s'agit des sensibles communs, c'est l'imaginaire. Je ne m'arrête jamais aux sensibles communs pour eux-mêmes, mais tout le temps dans l'imaginaire. C'est extraordinaire que les sensibles propres glissent, tandis que le sensible propre arrête. Et ça, on peut en faire l'expérience. Si on est capable de voir la différence de la première fois que je visite une ville, ou bien que je suis dans cette ville et que je fais à toute vitesse mes courses, ou je ne regarde plus rien du tout, je prépare mes courses. Il y a deux regards totalement différents. Et c'est normal, puisque la vie sensible est premièrement cette diversité de mes cinq sens. Ça, c'est très net. La vie sensible est prise par la diversité de cinq sens. Donc, il y a un éclatement comparativement à ma vie végétative, qui est substantielle. Substantielle dans un sens qu'elle est radicale. Elle est première. Ma vie sensible, je dirais, c'est le point de départ de l'intentionnalité. C'est très curieux. Et c'est un acte dans l'intentionnalité. Et un acte dans l'intentionnalité, c'est un acte, mais un acte qui n'est jamais total et qui est relatif la réalité sensible. Ma vie sensible est toute relative à la réalité sensible. Elle est réaliste, si vous voulez. Le réalisme de ma vie sensible vient des sensibles propres. Et l'idéalisme de ma vie sensible vient de l'imaginaire. par les sensibles communs. Il y a deux points de vue très différents. Et je peux regarder l'acte du sensible propre, de la sensation du sensible propre, et l'acte avec l'imaginaire. Et des deux côtés, alors différemment, mais des deux côtés, l'énergie et l'intellectia sont inséparables. C'est propre du sens du propre. La méthode vitose, hein, elle est faite pour qu'on redécouvre la distinction entre le sensible propre et le sensible commun. Elle est fondée là-dessus. C'est très étonnant. Et c'est bien, parce que dans un monde comme le nôtre, qui est très imaginaire, on télescope complètement la vraie vie sensible. Elle est possédée par le point de vue commun, les sensibles communs. Et on ne voit plus ce qu'il y a d'original dans la vision, d'original dans le goût, d'original dans la saveur, d'original dans l'odeur, dans le toucher. Ce moment précis d'un acte qui touche l'autre. Dans le sensible propre, vous touchez l'autre. Et c'est le premier contact avec l'autre. Et c'est très important, ce premier contact avec l'autre. Parce que dans la vie, dans le point de vue des sensibles communs liés à l'imaginaire, vous ne touchez plus l'autre. L'immanence de ma vie sensible est beaucoup plus forte par l'imaginaire. L'imaginaire, il est en moi. Et vous ne trouvez rien dans l'imaginaire pour vous reposer. C'est la petite colombe dans l'arche de Noé qui revient parce qu'elle n'a pas pu trouver un terrain où elle puisse s'arrêter. Donc la seconde fois, elle a trouvé ce terrain et elle ne revient plus. Et c'est très bien. Ma vie sensible liée à mon imaginaire, c'est le foulecan. Je vis dans un rêve éveillé. Très agréable. Tandis qu'au contraire, les sensibles propres ne font pas du tout vivre un au-delà. Ça m'arrête à la réalité sensible. Vous voyez ? Il y a les deux dans les sens. C'est ça qui est extrêmement curieux. Il y a le réalisme des sensibles propres. Et l'idéalise, un faux idéalisme, mais l'idéalise de l'imaginaire. Et on peut par là voir les cultures qui me font arrêter au vrai sensible propre. C'est les artistes. Les artistes mettent en pleine lumière les sensibles propres. Que, ordinairement, dans un regard simple, on n'avait pas vu. Tellement on vit dans un monde imaginaire. Et c'est pour ça que cette vision métaphysique de la vie sensible est très intéressante, parce que je vois que le sensible implique un éclatement. J'ai cinq sens. Et je sens de cinq manières différentes. Et je dis bien, je sens. je sens par mon toucher, je sens par mon odorat, et même là doublement sentir, et je sens par mon odorat, je goûte et je sens encore, et par les yeux, c'est un toucher du réel sensible, c'est un toucher, donc un acte. Du réel sensible où Entelekaya et Energia sont liés, sont très liés. Et puis, j'ai la vie sensible, Foulcan, imaginaire. Je vis dans un monde irréel, qui est le mien, irréel. Il est très réel pour moi, mais imaginaire. Et là, je suis uniquement dans Entelekaya, qui fait tout. Entelekaya est l'énergeia. Il est l'énergeia. Quand je suis dans l'imaginaire, le réel, c'est pour moi l'imaginaire. Et ça, vous en avez. Je me réalise dans un rêve, dans un cauchemar. Vous ne voyez plus la différence entre l'imaginaire et le réel. Vous êtes coupé du réel, et votre imaginaire avant tout. Et quelquefois, les gens vivent ça, éveillés. Ils sont dans l'hallucination. Et le sens réaliste du toucher, c'est le sens qui a le plus de difficultés aux hallucinations. Mais elles existent aussi. Vous croyez qu'on vous touche. Imaginativement. Et vous regardez, mais il n'y a rien. Et pourtant, vous dites, oui, un toucher intérieur. Et vous avez l'impression que c'est un toucher. Les hallucinations au désert, ainsi de suite. Où l'imaginaire est tellement puissant. Donc l'entelekayol, l'imaginaire est tellement puissant qu'il est le réel. Alors, je continue. Ainsi, la qualité sensible est autre et actue ma sensation. Elle est donc une certaine fin pour ma vie sensible. Oui, mais voyez ce que je veux dire, l'entelekaya et l'énergeia n'existent qu'ensemble. On ne peut pas être séparé. Quand vous voyez, le sensible propre est actué. Mais dès que vous ne voyez plus, vous ne regardez plus, le sensible propre ne vous actue plus. Et donc une certaine fin pour ma vie sensible. Oui, mais une fin bloquée avec ma propre sensation. Ne peut-on pas distinguer ici l'acte de la qualité extérieure et l'acte du sujet, le vécu? Vous distinguez les deux parce que vous avez cette distinction avant. Autrement, l'acte, il est la coordination des deux. Autrement, il n'y aurait pas d'acte. La vie sensible est, au point de vue être, et quand même, la vie sensible, c'est là où la connaissance commence, l'intentionnalité commence, et l'intentionnalité est très faible. Alors elle ne peut pas tenir par elle-même. La pensée tient par elle-même. L'objet disparaît, vous le gardez. Tandis que la sensation, non. Elle n'existe qu'au moment où vous sentez les choses. Et c'est, je crois, que Entelekaya et Energeia sont en même temps inséparables. Je peux peut-être les distinguer, mais pas les séparer. Et je les distingue non pas, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre, je les distingue non pas en raison de ma sensation, mais en raison de ma philosophie de l'intelligence. n'a de sensation, les deux sont liés. C'est pour ça que le sensible me donne un réalisme très particulier. Un réalisme très instantané, très décousu par le fait même. Dans le cours hier, vous avez dit que l'acte ne se réalise pas parfaitement au niveau de la vie. Pour le vivant, dans le vivant limité, hein, le vivant que j'expérimente, pas dans la vie, pour le vivant, l'acte reste immanent, entelekeia. Et cet entelekeia est tellement faible dans la vision qu'il n'existe que simultanément avec l'énergie. Les deux sont liés, intimement liés. Est-ce que les objets formels qui spécifient les opérations du vivant sont d'une certaine manière acte fin, énergéia, pour le vivant? Oui, l'objet formel, la réalité qui existe, la réalité sensible, elle est acte fin, elle termine mon opération. Par exemple, l'aliment, alors là je passe au point de vue sensible, point de vue végétatif. L'aliment qu'on mange, l'air qu'on respire, la couleur qu'on voit, c'est différent pour la couleur qu'on voit. Ne mêlez pas la vie végétative et la vie sensible. Et ça, ce serait très intéressant à voir. L'aliment qu'on mange, l'aliment est en acte quand je le mange. Quand vous le voyez derrière la vitrine, le petit gâteau, il est capable d'être un gâteau. Et il est fait pour être mangé. Vous donnez une fin au gâteau quand vous le mangez. Vous l'ennoblissez. Et alors, le boulanger, ou le, s'il était philosophe, il dirait, mais mangez tous mes gâteaux, vous leur donnez une finalité. Sans vous, mes gâteaux n'ont pas leur finalité. Ils attendent. Ah, alors ça, c'est tout à fait propre à la vie végétative. La vie végétative, c'est l'efficience qui finalise. Et c'est ça le propre du requin. Vous comprenez, le requin, vous savez, je racontais cette histoire au Pyrénées. Enfin, ce requin, celui qui a vu ça me l'a raconté, je vous affirme, il me racontait ça avec. Il tremblait, il y avait peu de temps que c'était passé. Voir cet homme qui dit oh, interdit de se baigner, mais non, il fait chaud, on va se baigner. Parce qu'on avait interdit, on a dit les requins sont là. Alors il s'est jeté à l'eau, et puis immédiatement les requins attendaient, hein. Ils étaient des excellents veilleurs. Ils attendaient leur proie pour la finaliser. Ils mangeaient la chair humaine. Était finalisé par le requin en tant que chair, en tant qu'aliment. Vous voyez, c'est ça qui fait comprendre le côté féroce du requin. C'est que son efficience et sa finalité, manger un homme, est particulièrement bon, paraît-il. parce que la chair de l'homme est quand même plus fine que la chair de tous les animaux. Et comme le requin a bon goût, il aime la chair humaine. Alors, pour mieux le manger, c'est du reste très astucieux, un coup avec sa queue, il renvoie promener le bonhomme et il l'attend. On voit, t'as vu ça? Donc, il finalise en le mangeant. La vie végétative a ce pouvoir particulier de finaliser par l'efficience. C'est du reste très intéressant, ça, parce que on transpose ça au point de vue philosophique. Combien de philosophies sont finalisées par l'efficience? C'est toujours très intéressant. Quand vous voyez un philosophe, il est finalisé par l'efficience. Et c'est vrai que le requin, lorsqu'il mange la chair humaine, l'homme est réduit à l'état d'être un petit pain. D'être une carotte. Et il la finalise en le mangeant. Alors, vous voyez, c'est très différent parce que la vie sensible est infiniment plus respectueuse. Quand vous regardez une rose, vous ne l'abîmez pas. C'est elle qui vous finalise. Ce n'est pas vous qui la finalisez en le voyant. Quand vous regardez une rose, vous dites, « Ah, puisque je regarde une rose, je la finalise, donc vous pouvez après la détruire. » Pas du tout. Vous ne la détruisez pas. Vous la regardez. Vous la contemplez. C'est elle qui vous finalise. Alors, au point de vue du sensible, le sensible propre vous actue. Il est intellekia. Mais cet intellekia est inséparable de l'energia. Et c'est ça qui est tout à fait particulier dans le sensible. Dans la vie végétative, c'est le vivant qui finalise l'aliment. Oui. Et c'est ce qu'il y a de si bas, alors, au plan surnaturel, quand Dieu se donne sous la forme du pain, c'est lui qui me finalise. Et c'est pas moi qui le finalise. Jésus, parce que je passe dans le domaine surnaturel. Par exemple, l'aliment qu'on mange, l'air qu'on respire. Bon, l'aliment qu'on mange est finalisé du fait que vous le mangez. C'est évident. Vous lui donnez une noblesse qu'il n'a pas par lui-même, puisqu'il est aliment non vivant, et du fait que vous le mangez, il est vivant par vous. Il fait partie de votre vie. Vous la finalisez. Parallèlement, les en commun, l'air qu'on respire, la couleur qu'on voit, ah, c'est tout à fait différent. Donc, l'exemple ne joue plus. Oui, la couleur qu'on voit. Est-ce que la couleur est finalisée parce que vous la voyez? Non. C'est elle qui vous finalise. La couleur qu'on voit, ce sont des biens pour le vivant qui existent indépendamment de lui. Oui, c'est vrai pour le point de vue sensible, mais pas pour le point de vue de la vie végétative. En entrant dans une boulangerie, dans un restaurant, la nourriture, vous la finalisez. C'est pas elle qui vous finalise.
qui existe indépendamment de lui et qui actue en lui une puissance vitale. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que l'opération de voir est acte immanent, energeia, et l'objet visible est entelecheia? Oui, mais en faisant attention qu'il est energeia au moment où l'autre est energeia. Et donc les deux sont liés. L'âme est substance, et elle subsiste grâce à l'acte d'être. Donc, l'être comporte la substance et l'acte. Un être matériel comportera-t-il en lui la matière? L'être matériel, il existe toujours dans le devenir. Et il n'existe que dans le devenir. C'est le propre du corps quand l'âme est séparée. Le corps ne vit que dans le devenir. Artificiellement, on peut faire que le corps continue d'exister grâce à un produit. Donc c'est une existence artificielle. C'est pas son existence. Donc, dans l'être comporte, donc, un être matériel comportera, en plus de la matière, la substance et l'acte. Non, l'être matériel, il n'existe que dans le devenir. Et c'est pour ça qu'on parlera de sa nature. Parce que la nature est principe du mouvement, est principe du devenir. Mais l'être matériel est purement dans le devenir. Vous voyez, vous vivriez uniquement dans un monde matériel. Vous seriez la seule substance. Et c'est vrai. Grâce à Dieu, nous vivons avec, en face de nous, un être qui est un homme, une femme, donc elle est substance. Je peux découvrir l'âme en moi et dans mon frère. Tandis que je ne peux pas découvrir l'âme dans le chien. Dans l'arbre, je découvre des natures qui ont telle détermination, telle espèce. Mais il n'y a pas d'autonomie dans l'être. Et c'est pour ça que quand un chien meurt, il n'y a pas l'âme chien qui demeure quelque part. L'âme chien demeure dans le cœur du propriétaire, en souvenir. Et donc, intentionnellement, mais pas réellement. Vous pouvez faire le deuil du chien, c'est purement intentionnel. Il n'y a aucune réalité derrière. Il faut bien distinguer hein, l'être imparfait qui est le devenir. Et ne cherchez pas la substance dans un être qui n'est qu'en devenir. Vous découvrez dans la forêt ce qu'est le devenir de la vie végétative. Vous découvrez dans les cèdres du Liban un devenir particulièrement éloquent qui est comme une image, donc une analogie métaphorique avec l'âme. Mais le cèdre du Liban n'a pas d'âme. Mais il a l'avantage de durer plusieurs générations humaines. Alors, il y a la mémoire du cèdre du Liban. S'il me dit tout ce qu'il a vu, il ne peut pas. Si je dis le caillou devant moi est un être, oui, il existe. Voilà ce qu'il faut dire. Ce petit caillou existe. Comment existe-t-il ? Il existe comme caillou. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cet être est un pur devenir. Alors, le caillou résiste à plusieurs générations. Ça peut résister longtemps. Il a l'existence dure, le petit caillou, parce qu'il est caillou. Et il mettra longtemps à disparaître, à être usé. Puis-je affirmer que ce même petit caillou a une âme ? Non. Il aurait une autonomie dans l'être. Et il est pur devenir. Donc il fait partie d'un tout. Et il n'existe que dans un tout. L'être en devenir n'existe que dans un tout. Que dans une harmonie. Dans un équilibre. Il fait partie d'un tout. Mais le tout n'a pas d'âme. Quand vous considérez l'homme uniquement comme partie d'un tout, vous ne regardez plus la personne. Vous le regardez comme un caillou. Tant que tu es là, tu prends une place. Mais dès que tu ne seras plus là, un autre prend ta place, c'est tout. Dans le régime marxiste, c'est ce qui se passe. On n'a plus d'âme. On tue l'âme. Et on vous ramène uniquement à être un être en devenir. Donc vous pouvez vous défendre, vous existez. Mais dès que vous ne pouvez plus, c'est le tout qui vous absorbe. Donc vous voyez, c'est complexe. Ce regard, l'être en acte. Mais c'est magnifique et très intéressant. Parce que ça m'oblige de repenser la vie végétative, la vie sensible, dans la lumière de l'être en acte. Dans la lumière de l'être en acte, vous existez. J'existe. Mais le caillou, dans la lumière de l'être en acte, qu'est-ce qu'il est ? Un pur devenir. Il n'existe en acte que par son devenir. Et donc c'est un devenir éphémère. Les psaumes disent ça magnifiquement. La fleur, son devenir. Le moustique, le devenir. Et c'est là qu'on voit bien comment la physique, quand elle dit que tout est relatif, elle a raison. Dans le devenir, tout est relatif. Le physicien qui travaille la matière ne trouvera que le devenir. Il n'y a pas d'autre contradiction avec les philosophies. C'est d'avance, le philosophe peut dire que quand j'étudie le devenir, je ne trouverai jamais l'être séparé. Dans mon regard, dans mon intelligence, Je dis, ce devenir existe. Et son devenir n'est pas l'être. Puisqu'il existe dans son devenir. C'est-à-dire qu'il n'est jamais en dehors du devenir. Et quand le devenir se termine, l'être se termine. Alors, je continue. Après la vie sensible, qui ne peut pas vivre l'être en acte? Purement, elle vit dans l'immanence. Vous voyez, quand je dis que la partie vit dans le tout, c'est dire qu'elle vit dans l'immanence parfaite. Le tout, c'est l'immanence parfaite. On est parti. En tant qu'on est parti, on n'a pas d'être extrinsèque, transcendant. Donc, on n'a pas d'être en acte séparé. Du devenir. On est complètement dans le devenir. Et c'est très, très intéressant de voir que la vie, au point de départ, elle est dans cette immanence de l'Ekaya. Elle ne sort pas de ça. Dans la vie sensible, l'Ekaya s'unit à l'Ekaya. Ce qui n'existe pas dans la vie végétative. La vie végétative demeure toujours dans l'intellekaya. Et maintenant, j'aboutis à la vie spirituelle. Alors, je vous disais hier, il fallait être très attentif. La vie spirituelle de l'intelligence et de l'amour. Je peux avoir deux regards philosophiques distincts. Je regarde la vie de l'intelligence comme le degré suprême de la vie. Donc, ce qui m'intéresse dans la vie intellectuelle, c'est le « c'est ma vérité ». Grâce à la vie de l'intelligence, je suis indépendant. Le « c'est ma vérité » est plus actuel dans ma vie de l'intelligence que dans ma vie végétative, que dans ma vie sensible. Le vivant de vie spirituelle, comme vivant, a une immanence parfaite. Alors, ce qui m'intéresse dans la vie de l'intelligence, c'est de regarder cette immanence parfaite. Vous voyez, j'attaque l'intelligence comme vie, pas comme intelligence. Et c'est très important de distinguer les deux regards. Le philosophe normal essaie de comprendre ce qu'il y a d'original dans l'intelligence. Mais il arrive que des philosophes ne regardent dans l'intelligence que la vie la plus parfaite. Et c'est vrai, hein, c'est pas faux de regarder l'intelligence comme la vie la plus parfaite. Mais j'ai un regard sur l'intelligence tout à fait différent. Et ce qui est curieux, c'est que je m'aperçois, si je fais l'histoire de la philosophie européenne, que les philosophes grecs s'intéressaient à l'intelligence comme intelligence. Et les philosophes modernes s'intéressent à l'intelligence comme vivant suprême. C'est-à-dire le se movere, se mouvoir. C'est par la vie intellectuelle que je suis le plus autonome comme vivant. J'ai une autonomie parfaite. Elle n'est jamais parfaite, puisque ma vie intellectuelle dépend de ma vie végétative. Si j'ai mal dormi, si je suis mal dans mon corps, si je suis crevé, j'arrive plus à penser. Ça, c'est évident. Donc une dépendance très radicale. Prenez un très bon repas, avec bien arrosé. Et après, faites de la métaphysique. Vous serez bois. Et le bois, quand il avale le petit lapin, il dort. Et dormir, qu'est-ce que c'est ? C'est, on dit à l'intelligence, tais-toi. À la volonté, tais-toi. Je dors. On vit d'une vie végétative pure. Alors elle est de temps en temps et dérangée par l'imaginaire. Très curieux. Hein. C'est une des choses les plus difficiles à rattraper, c'est le sommeil. Quand le sommeil disparaît, elle est rattrapée le sommeil. C'est terriblement gênant. Parce que plus on pense, plus le sommeil s'en va. Plus on imagine, plus le sommeil s'en va. Alors, il ne faut plus penser, il ne faut plus imaginer pour que le sommeil revienne. C'est très curieux, ça. Là, il faut trouver le petit truc pour être un spécialiste pour faire revenir le sommeil. Dans notre monde d'aujourd'hui, c'est très important, parce qu'il y a une crise du sommeil. Il y a un chômage du sommeil. Et ça, c'est le chômage le plus radical et le plus terrible. On ne dort plus. Et on ne sait plus comment on peut dormir. Alors, et tout ça, c'est toujours l'être en acte, hein. Quand j'étudie l'intelligence comme intelligence, qu'est-ce que je cherche à voir ? Le jugement d'existence. Le jugement d'existence me révèle ce qu'il y a de spécifique et de propre dans l'intelligence comme intelligence. Et je vois à ce moment-là ce qu'est l'être en acte. Entelekeia, la vérité. Mais je peux aussi, et je suis en face de Hegel, je suis en face de Descartes. Ça a commencé avec Descartes. Le subjectivisme qui l'emporte sur l'objectivité. Et le subjectivisme l'emporte sur l'exuité parce que la vie l'emporte sur l'intelligence. À la place de chercher l'intelligence, on cherche la vie. On exalte la vie. Le se movere. C'est subjectif le se movere. C'est très intéressant. C'est le sujet qui se meut et qui se meut lui-même. et qui peut se mouvoir indéfiniment. Le sémo, alors, je regarde à ce moment-là l'acte d'intelligence dans le sémovere, où l'acte d'intelligence est le plus sémovere. Posez-vous la question, parce que ça vous éclairera énormément sur toute la philosophie contemporaine, où le sémovere est le plus lui-même. C'est dans l'appréhension et non pas dans le jugement. Parce que dans le jugement, je retrouve la réalité qui m'actue. Dans l'appréhension, c'est moi-même qui découvre l'universel. Alors, dans une philosophie où l'universel devient la betrah, la définition, le sémovere, dans l'universel et la définition, je ne regarde plus l'intelligence comme intelligence, mais je regarde la vie de l'intelligence. Et c'est normal que dans ces philosophies qui cherchent la vie de l'intelligence, l'universel, la définition, la simulation, c'est le principal. L'intelligence a cette puissance extraordinaire au point de vue qu'elle peut tout digérer. C'est infini. La science mathématique, c'est infini. Les sciences modernes, c'est infini. Elles sont limitées par l'instrument. Pas par l'objet, mais par l'instrument. C'est extrêmement curieux, ça. C'est les instruments qui ne sont pas assez vigoureux. Et alors, c'est la recherche aux instruments les plus capables pour aller toujours plus loin. Pour que le sémovere soit toujours plus pénétrant, aille toujours plus loin. Tandis que l'intelligence comme intelligence, elle se bute à ce qui est. Ce qui est mesure de mon intelligence. Et je reviens toujours à ce qui est comme mesure d'intelligence. Tandis que si je suis en phase de l'intelligence pour chercher le sémovere, la mesure du sémovere, c'est moi, la subjectivité. C'est l'intelligence qui a elle-même sa mesure. Et donc j'ai une manière de comprendre l'affirmation d'Aristote, la contemplation de la contemplation.